Il est 12h à Kinshasa, 13h à Arou, dans la province de l'Ituri. Vous écoutez Radio Kapi.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Belinda Bosuma à la présentation de votre journal.
À la une, réhabilitation et modernisation de la nationale numéro 2, axe Mbujimayi, Kabinda, Mbanga. Territoire de Katanda au Kasai Oriental, les travaux ont été lancés hier par le président de la République. Ils sont financés par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Un guide méthodologique pour l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Il vient d'être élaboré avec l'appui du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Il s'agit d'un document qui trace la procédure à suivre dans le cadre du processus d'indemnisation des victimes. Et puis, l'invité de ce journal, Maître Charles Ngoy, membre de la commission sur le recrutement des agents et cadres du nouveau secrétariat général des personnes vivant avec handicap. Il parle du recrutement en cours qui vise notamment à accorder 60% des postes aux différentes catégories des personnes vivant avec handicap. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République poursuit son séjour au Kasaï oriental où il est arrivé jeudi soir. Hier samedi, Félix-Antoine Tshisekedi a lancé les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 2 sur l'axe Mbujimayi-Kabinda-Mbanga, long de 280 km. Nous sommes dans la localité de Kabwe, territoire de Katanda. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport, pacte en sigle, financé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Plus de détails avec Esther Ndalafina.
Ce projet de 52 mois va désenclaver totalement la province de Lomami et de relier la ville de Kabinda à celle de Mbujimayi ainsi qu'à la localité de Mbanga. D'après Alexis Gizaro, ministre des Travaux publics et infrastructures, les travaux consistent à l'élargissement et au bitumage de 280 km de route sur la nationale numéro 2 dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport pacte financé par la Banque mondiale. Et ça sera pour la première fois que cette route accueille l'asphalte. Le projet prévoit également la pose des fourreaux de fibres optiques pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Rappelons que c'est depuis le mois d'août dernier que l'entreprise China Jiang International Corporation s'est déployée dans la localité de Kusu en Kwadi dans le territoire de Katanda au Kasaï oriental avec quelques matériaux de construction. Au niveau de la localité de Kabwe, plus de 200 ménages affectés par le projet ont même été indemnisés. Toutes les personnes qui travaillent dans le cadre de ce projet ont été contraintes de signer le code de bonne conduite pour prévenir les cas de violences sexuelles et violences basées sur le genre sur les populations locales. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, le fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo se dote d'un guide méthodologique pour l'indemnisation. Il s'agit d'un document qui trace la procédure à suivre dans le cadre du processus d'indemnisation des victimes. Son élaboration a bénéficié de l'appui technique et logistique du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ceci ressort de la clôture officielle hier à Kisangani de l'atelier y afférent. La cérémonie a été présidée par le gouverneur intérimaire Didier Lomoyo, reportage de Jacques Moukonkolé.
Les activistes des droits de l'homme, de la justice, des officiers des FRDC ainsi que des cadres du FRIVAO ont participé à l'élaboration et à l'adoption de la politique d'indemnisation mise en place par le FRIVAO. Comment identifier une victime? Comment traiter une requête? Bref, quelle procédure suivre pour l'indemnisation d'une victime? Toutes ces questions sont traitées dans ce document, comme l'explique Franck Molanga, représentant des participants.
Ce document détaille toute cette procédure allant de l'enregistrement des demandes, identification, analyse, examen, certification et indemnisation proprement dite.
L'élaboration de ce guide intervient au terme d'un atelier de renforcement des capacités des principaux acteurs. Ces assises ont bénéficié de l'expertise technique et logistique du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Sylvain Massoudi Moudimbi, son officier au bureau de terrain de Kisangani.
Conception des termes de référence, des agendas et dans la sélection des intervenants. Deuxièmement, l'expertise des bureaux droits de l'homme dans la formation. Il y a trois thèmes qui ont été animés par le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, notamment les questions de justice transitionnelle, et deuxièmement, la lutte contre l'impunité des crimes internationaux, et troisièmement, on a parlé de réparation.
En définitive, Chansar Borukolla, coordonnateur intérimaire de FRIVAO, se dit comblé notamment pour l'identification des priorités afin de relever les défis techniques et humains. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Restons dans la Grande Orientale, cette fois en Ituri. Les mesures de sécurité sont renforcées par la police nationale congolaise dans la ville de Bunia. Pendant cette période des festivités de fin d'année, les patrouilleurs sont déployés dans tous les quartiers et procèdent au contrôle des véhicules pour garantir la sécurité de la population. De nombreux habitants saluent cette action de la police qui permet de réduire sensiblement les cas de criminalité dans la ville, mais aussi à la population de vaquer librement à ses activités. Reportage de Isaac Remoyope, rendu par Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Les activités économiques se sont intensifiées pendant cette période de fête dans la ville de Bunia, qui est une opportunité pour de nombreux commerçants et ambulants de réaliser des bénéfices. Deux magasins, boutiques et les marchés sont ouverts jusque tard dans la soirée. Les tenanciers de bars et restaurants ainsi que les taximen travaillent presque toute la nuit. Les clients qui circulent librement inondent ces lieux publics, soit pour se divertir ou faire des achats en prévision de la fête. Selon les témoignages de certains habitants locaux, les cas de cambriolage, de meurtres sont devenus rares grâce au dispositif de la police qui permettent de sécuriser la population. Des éléments de la PNC sont visibles partout et font des patrouilles diurnes et nocturnes, pédestres et même motorisés. D'autres fouillent des véhicules en vue de dénicher des armes ou autres objets suspects. Tout cela permet de rassurer la population qui exprime sa satisfaction. Certaines tentatives de cambriolage sont déjouées par la police, notamment au quartier Mbandaï, où des échanges de tirs ont été entendus le vendredi dernier entre un groupe de bandits et des éléments de la police en patrouille.
Nord Kivu, le gouvernement congolais devrait mettre une attention particulière autour de l'amélioration des conditions salariales des militaires FARDC engagés au front. C'est un plaidoyer de l'artiste musicien Moïse Rumia de Butembo, contenu dans sa nouvelle chanson qui porte le titre FARDC. Ce jeune artiste affirme que le sacrifice des soldats congolais qui défendent la nation mérite un soutien de la part de tout individu, une manière de remonter leur morale sur les champs de bataille. Moïse Rumia explique au micro de Grévis Saloum.
Il se sacrifie pour la nation, il se sacrifie pour notre sécurité et nous sommes obligés de saluer et de louer leur sacrifice à la population. C'est de nous unir et soutenir les FARDC parce que ce sont les gens qui se privent de leur bonheur pour notre propre bonheur. Et donc ils laissent leur famille, ils laissent leurs femmes, ils laissent leurs enfants, ils laissent leur propre maison afin de venir combattre l'ennemi pour le bonheur de la population. Ce sont des petits Jésus, la seule personne auquel on avait dit qui peut accepter de donner sa vie pour ces hommes. C'est Jésus. Là-bas, aux lignes de front, ils se sacrifient, ils acceptent d'affronter la mort pour notre bonheur. Et donc, je les appelle des petits Jésus. Le bon cœur de la personne qui accepte de se sacrifier pour donner sa vie, se priver de ses loisirs pour permettre aux autres de faire le loisir, et c'est quelque chose de grand. Ils méritent bien être payés même plus que les députés.
Les exportateurs du café et du cacao produits au Nord Kivu sont menacés de perdre d'ici janvier 2025 le marché de l'Union européenne. La société Congo Agri, une plateforme des producteurs agricoles du Nord et du Sud Kivu qui lance le SOS, appelle le gouvernement congolais à prendre des actions urgentes pour une solution. Selon le responsable de cette structure, la persistance de la guerre dans la région fait que toutes les sociétés de certification soient interdites par l'Union européenne d'envoyer leurs enquêteurs dans la zone. Par conséquent, les coopératives des producteurs ne peuvent plus accéder à leur certification. Ghislain Kamondo explique la situation au micro de Bernardin Nyangui.
Depuis 2023, EcoCert, qui est une société française, avait décidé de ne plus certifier le café des membres des coopératives au motif qu'il y avait l'insécurité dans des zones de production. Et les coopératives sont restées avec AfriCert, qui est une société kenyane. Malheureusement, à son tour, AfriCert vient de notifier les coopératives qu'à partir de janvier 2025, ne pourront plus obtenir leur certification suite à l'injonction de l'Union européenne au même motif qu'il y a de l'insécurité. Et malheureusement, aujourd'hui, l'espace européen a lui-même à plus de 70% des exportations du café cacao. Se dépasser de ce marché, à ce moment, ça sera difficile. C'est au gouvernement maintenant de demander à l'Union européenne, peut-être, d'accorder une période supplémentaire qui pourra permettre aux coopératives d'honorer leurs engagements à partir des contrats déjà signés. Rappelez-vous aussi que les coopératives ont pris des crédits auprès des banques qui doivent honorer grâce à ces ventes.
Rappelons que l'AFEC, groupement territorial de Beni, a adressé elle aussi le 17 décembre dernier au ministre du Commerce extérieur une correspondance contenant une alerte sur le même sujet. Dans la province du Maniema, la situation de la sécurité alimentaire reste alarmante. 77% des ménages dans cette province sont en insécurité alimentaire. Ceci est révélé dans le rapport de l'analyse de la réponse des résultats de l'évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence, couplée aux indicateurs de la nutrition. Cette enquête a été menée dans cette province en août 2024 en collaboration avec l'Institut national des statistiques, INS, et le Programme alimentaire mondial, PAM. On écoute à ce sujet Michel Mukombeloa, directeur provincial de l'INS Maniema. Il est au micro de Florence Kizalunga.
L'enquête révèle que 77% des ménages de la province de Maniema sont en insécurité alimentaire. À la tête des territoires, nous avons les territoires de Kabambare avec 87,6%. C'est une situation très mauvaise. Après Kabambare, nous avons Kailo, 84,1%. Nous avons Pougne, 83,6%. Lubout, nous avons 77,8%. Kasongo, 75%. Hormis la ville de Kindu, les territoires les moins touchés, c'est le territoire de Pangui. Par rapport aux causes, l'inaccessibilité des routes, nous avons la hausse des prix des denrées alimentaires, nous avons aussi les catastrophes naturelles. Nous sommes un service d'alerte. Nous avons collecté les données. Nous demandons à tout le monde de prendre à bras le corps la situation qui guette la province du Maniema par rapport à la sécurité alimentaire. C'est chaque année que nous organisons cette enquête avec les financements PAM et nous demandons au gouvernement de prendre à bras le corps la situation pour résoudre la tendance. La population est en danger, c'est au tout gouvernement de prendre ça au sérieux, cette situation qui guette la population.
Direction le Congo central, signalant la remise officielle vendredi d'un lot des produits pharmaceutiques à la prison urbaine de Boma par le coordonnateur de la Fédération congolaise des droits de l'homme et de développement. Cette dotation intervient dans le cadre du projet d'appui à la protection des droits des détenus dans les prisons de Ndolo à Kinshasa et Boma au Congo central. Ce projet est implémenté par l'ONG Avocat des droits de l'homme basée à Kinshasa et mis en œuvre à Boma par la Fédération congolaise des droits de l'homme et de développement. Reportage de Nana Plurich Mambou.
Ces produits pharmaceutiques au bénéfice des détenus de la prison urbaine de Boma sont composés essentiellement des antibiotiques, des seringues, des pommades anti-galles et bombes de nerfs, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des savons médicaux ainsi que des bandes hygiéniques pour les femmes. Il y en a aussi dans ces lots un tensiomètre et un glycomètre au profit de l'infirmerie de cette maison carcérale. Cette dotation cadre avec le projet d'appui à la protection des droits des détenus que l'ONG Avocat des droits de l'homme ADH en sigle est basée à Kinshasa exécute à Boma à travers l'ONG DHD, Fédération Congolaise des droits de l'homme et développement. L'objectif, c'est l'amélioration des conditions de détention, comme le souligne le coordonnateur de l'ONG DHD, Fédération Congolaise des droits de l'homme et développement, Gabriel Makese.
Tout ça sont des produits pharmaceutiques que nous venons octroyer à l'équipe de la prison pour assurer la prise en charge médicale des détenus qui sont malades.
Signalons qu'avant cette remise des médicaments, cette structure a organisé une formation des sensibilisateurs sur les droits des détenus au profit des avocats, des défenseurs des droits de l'homme, des magistrats ainsi que d'un échantillon des détenus de cette prison. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Rendons-nous à Kalemi. Une vive tension est signalée depuis une semaine au village Moulengi, précisément sur le site de Lukwangulo. L'université de Kalemi se dispute une partie de cette concession avec les habitants du village Moulengi. La commission issue des consultations populaires instituées par le ministre de la Justice prend fait et cause pour les villageois. Cette situation a été au cœur d'une manifestation des étudiants de l'université de Kalemi, Paulin Munanga. Reportage.
Pour les autorités académiques, la vaste concession de Lukwangulo située au village Moulengi, à quelques kilomètres de Kalemi Centre, appartient bel et bien à l'université de Kalemi. Le personnel de l'UNICAL met en garde tous ceux qui vont tenter de construire dans cette concession. Ghislain Mugalu est chef de travaux à l'UNICAL.
Nous adressons un avertissement sévère et ferme à toute personne impliquée. Toute nouvelle construction sur les cités universitaires sera immédiatement démolie et les contrevenants seront poursuivis en justice.
De leur côté, les habitants du village Moulengi, plus de 200 personnes au total, disent que ce site leur appartient depuis plusieurs années. D'après eux, leurs maisons ont été détruites en 2022 sur le site sur ordre du gouvernement provincial du Tanganyika de l'époque. Ils se disent surpris de constater que sur le site supposé être de l'université de Kalemi, des autorités se sont partagées des parcelles. David Kakuji, l'une des victimes.
Au lieu qu'ils construisent, comme ils avaient dit que cette parcelle-là appartenait à l'université, ils sont en train de distribuer aux ministres, aux députés, aux opérateurs économiques, aux certains cadres de l'université. Et heureusement pour nous, le ministre de la Justice est arrivé et a laissé une commission en place ici qui est en train de suivre notre problème.
Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Corée du Sud, au moins 167 personnes tuées ce dimanche dans le crash d'un avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok. L'engin s'est écrasé et a pris feu à son atterrissage à l'aéroport de Muan dans le sud-ouest du pays. L'avion a fait une sortie de piste et s'est écrasé d'après certaines sources. Le responsable de Jeju Air présente les excuses de la compagnie aux familles des victimes. Au Tchad, les bureaux de vote ont ouvert, parfois avec retard, pour le deuxième jour de scrutin ce dimanche 29 décembre. Des élections qui marquent la fin de 3 ans de transition. Hier, c'était la diaspora, les militaires et les nomades qui étaient appelés aux urnes. Aujourd'hui, c'est au tour de la grande majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales de voter.
L'invité.
Nous recevons Maître Charles Ngoy, chargé de mission du Fonds national d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation des personnes vivant avec handicap, en RDC, FONAM en sigle. Il est également membre de la commission sur le recrutement des agents et cadres du nouveau secrétariat général des personnes vivant avec handicap. Dans cette interview, il parle du recrutement en cours qui vise à accorder 60% des postes aux différentes catégories des personnes vivant avec handicap et les 40% restants aux personnes valides. Charles Ngoy est avec Jean-Marc Matouaki.
Maître Charles, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qu'on retient sur ces différentes rencontres qui s'inscrivent dans le cadre d'un processus de recrutement sur liste?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez comprendre que c'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays que l'administration publique vient d'être ouverte aux personnes avec handicap. C'est une catégorie longtemps marginalisée. Vous allez comprendre que tout évolue normalement. Pour ces premiers recrutements, dans le premier paquet, on nous a octroyé à peu près 2000 places. Et on est en train de travailler en tant que membre de la commission de recrutement pour que nous puissions avoir toutes les catégories dans les paquets qu'on nous a donnés là. Donc, nous allons aussi voir les quotas qu'il faut réserver à nos amis qui ont réussi au concours d'ELENA. Ils sont à peu près 320 personnes qui ont réussi au concours, mais le reste des postes là, c'est à répartir entre les personnes avec handicap à raison de 60% et 40%, ça va concerner les personnes valides.
Justement, quels sont les critères qui sont pris en compte pour telle ou telle personne qui doit être retenu et proposé sur la liste.
Comparativement à ce que nous avons suivi dans les couloirs, il y a beaucoup de colportages. Vous venez d'assister à la manière dont on est en train de procéder. Je pense que c'est avec des critères purement objectifs. Nous tenons compte d'abord du niveau d'études. Deuxième critère, nous tenons compte de l'âge, parce que dans la fonction publique, on ne peut pas y entrer avec n'importe quel âge. Donc, c'est entre 18 et 45 ans. 45 ans, c'est exceptionnellement parce que c'est une administration exceptionnelle qui concerne les personnes avec handicap qui n'ont jamais travaillé dans ces pays. Comme je vous l'ai dit, c'est la toute première fois que ces gens vont faire leur entrée dans l'administration publique. Vous allez comprendre qu'il y a les niveaux d'études, il y a les critères âge, il y a un autre critère, il faut être personne avec handicap, et puis on tient compte aussi de toutes les catégories telles que définies dans la loi numéro 2203 du 22 mars 2022, la loi portant protection des personnes avec handicap. Donc on veut dire, on fait allusion aux handicapés moteurs, on voudrait faire aussi allusion aux personnes vivant avec déficience mentale, on fait allusion aussi aux personnes de courte taille, on fait allusion aux personnes atteintes d'albinisme, on fait allusion également aux personnes atteintes d'anisme. Donc ce sont là les catégories qui sont reconnues par notre loi organique.
Vous avez fait allusion au colportage, justement, il y a eu des vives réactions, on va dire une sorte de remous, de la part des candidats qui ont été recrutés par l'École nationale de l'administration. Quel est le message que vous pouvez leur adresser au regard de ce qui s'est fait déjà ici au niveau du ministère des personnes vivant avec handicap, avec la participation des différentes catégories des personnes vivant avec handicap et des représentants venus des quelques provinces et des Kinshasa?
Ils n'ont qu'à garder leur mal en patience. Le processus évolue normalement. Vous êtes témoin de ce qui est en train d'être fait. Ils doivent d'abord savoir que cette administration, c'est d'abord une administration dédiée aux personnes avec handicap. Ils ne doivent pas commencer à travailler seuls. Donc, on doit étudier tous les paramètres possibles et respecter les critères, respecter les quotas aussi des catégories pour qu'ensemble, ils puissent commencer à travailler. Parce que nous avons entendu qu'ils auraient des retards de paiement, mais c'est faux. Retard de paiement, pourquoi? Ils ont travaillé dans quel bureau? Ils ont travaillé dans quelle administration? Ils attendent, l'arrêté est là et le processus de recrutement petit à petit est en train de toucher à sa fin. Je crois que d'ici là, des solutions durables seront trouvées avant la fin du mois.
On va dire qu'à jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore un chronogramme qui définit le déroulement ou la suite du processus.
Le chronogramme, c'est jusqu'au 30 décembre. Je crois que avant le 30 décembre, les listes seront déjà transmises chez les VPM de la fonction publique pour qu'ils puissent prendre à son niveau aussi l'arrêté. Et le ministère va voir dans quelle mesure va procéder rapidement aux commissions d'affectation pour permettre aux nouvelles unités qui viennent de rejoindre l'administration de PVH de commencer le travail.
Maître Charles Ngoy, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Notre invité répondait aux questions de Jean-Marc Matouaki Mofelele. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Gisèle Cage et Emmanuel Elamegi, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Merci d'avoir été des nôtres.
Radio Okapi. Identité culturelle.
Radio Okapi.
Identité culturelle.